Abdoulaye, nous te laissons la parole.
Allô, pardon, bonjour à tout le monde. Et merci, Jérôme, pour cette belle conduite du culte, les chants bien choisis et qui nous fait du bien, même déjà avec les versets. On est déjà rassasié, mais la parole, on est jamais. Voilà, on continue de se nourrir sans fin parce que ça nous fait du bien. Voilà, donc. J'aimerais, avant de commencer, rappeler ce que nous avons eu les derniers dimanches. J'ai essayé de partager le thème de l'écoute qui fait grandir nos relations. J'ai partagé aussi « Lever les yeux vers Christ pour relever les défis ». Et aujourd'hui, hier, la semaine passée, le dimanche passé, Mboul nous a partagé de la vie de Salomon, qui a été un roi d'Israël. Donc, voilà, il nous a fait un peu le résumé de la vie spirituelle et la vie relationnelle avec Dieu. Et dans ce texte, on voit, dans ce partage, on a vu que Salomon a bien commencé et finalement, vers la fin, c'était un peu... est difficile et cela aussi nous rappelle dans ses écrits en Ecclésias 12 verset 13, il dit « Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de respecter Dieu en observant ses ordres. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes les actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. » Finalement, on voit que vers la fin, Salomon a pu rectifier les tirs en disant que voilà, il a tout eu l'expérience, il a tout fait, mais finalement, c'est de craindre Dieu, de respecter ses commandements. Voici l'appel de l'homme. Mais heureusement, il a été classé parmi les rois, les bons rois, comme nous l'avons vu. En tout cas, merci pour ce partage. J'aimerais continuer avec le thème de la fois dernière. Nous avons vu la communion fraternelle et c'est la suite logique de la communion fraternelle. S'il y a communion fraternelle dans l'Église, c'est qu'il y a un cadre et le cadre, c'est l'Église elle-même que nous formons. Et donc, le thème ce matin, c'est comment être une église connectée. Peut-être vous allez me dire, on est déjà connecté parce que nous sommes sur Zoom, donc on est connecté ensemble. Voilà, mais on va essayer de comprendre comment être une église connectée. Je vais partager mon écran et... on va s'exhorter sur ce thème. Comment être une église connectée? On va lire Hébreux 10. Jérôme nous a fait lire ce texte déjà ce matin. On va le relire et peut-être à partir de ces thèmes, de ces textes, nous pourrons nous exhorter les uns les autres. Hébreux 10, versets 22 à 25. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Hébreux 10, versets 22 à 25. Comment être une église connectée? Ici, le texte nous invite à s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, que nos cœurs véritablement soient tournés vers notre Dieu avec une disposition sincère. Il est au milieu de nous, il est avec nous. Et ensuite, l'auteur nous invite à tenir fermement notre foi ensemble et d'avoir cette habitude de s'encourager les uns les autres. Parce qu'il y a des moments difficiles. Il y a des moments où nous pouvons être découragés. Il y a des moments où nous pouvons nous sentir dans une faiblesse spirituelle. Et l'auteur nous invite ici à nous encourager mutuellement, les uns les autres. Ensuite, il nous invite à se rappeler que la seconde venue de Jésus est proche. Chaque jour qui s'élève, nous nous approchons de la venue de Jésus-Christ. Chaque jour que le Seigneur ajoute à notre vie, ça veut dire que c'est un jour qui nous approche davantage de Christ, qui nous approche davantage du royaume de Dieu qui va venir, qui va s'établir. Il nous invite aussi à nous connecter à Dieu par l'Esprit dans la prière et à se connecter les uns et les autres. Il est question vraiment ici dans ce texte d'une manière restée attachée, d'une manière fidèle à Dieu, d'une manière fidèle aux uns et aux autres, à l'Église. Parce que l'Église, en ce moment, rencontrait beaucoup de difficultés. L'Église était persécutée. L'Église avait beaucoup de défis à relever et finalement, des frères et des sœurs sont en train d'abandonner l'Église et même plus loin, abandonner leur foi. Et nous allons essayer de comprendre que veut dire être connecté. Qu'est-ce que le mot connecté évoque comme idée? Premièrement, le mot connecté évoque l'idée des objets qui sont liés entre eux d'une manière électronique, technologique. Aujourd'hui, nous sommes liés, nous sommes connectés parce que nos ordinateurs, nos téléphones portables et nos caméras et tout est lié ensemble par le moyen de la technologie. Et aujourd'hui, nous pouvons nous voir, nous pouvons nous entendre, nous pouvons nous encourager et nous pouvons parler ensemble. Mettre aussi connecté évoque aussi l'idée de mettre en relation des personnes socialement ou physiquement liées, qui partagent quelque chose de commun. Si des personnes partagent des choses en commun, telles que la famille, telles que l'Église, telles qu'une communauté de personnes qui vivent ensemble, sont liées du fait qu'ils partagent quelque chose de commun. Aujourd'hui, nous partageons quelque chose de commun en Église et donc nous sommes connectés en tant qu'Église les uns avec les autres. L'Église, Christ a bâti son Église pour être un moyen de communication, pour être un moyen de relation avec son peuple, pour que le Christ et avec son Père et l'Esprit Saint soient en communication, en relation avec son Église et avec son peuple. Si le Christ a bâti son Église et la chérit et la protège et l'entoure de son amour et de sa gratitude et sa bonté, c'est parce qu'il veut et il ordonne que l'Église puisse être un moyen de relation avec son peuple. Éphésiens 4, 16 nous dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps coordonné et forme un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Paul exhorte aux Éphésiens d'avoir cette vision de ce lien qu'il a fait les uns avec les autres et de permettre de découvrir que le Christ nous lie, non seulement nous lie ensemble, mais il nous fait devenir une seule assemblage solide. Et c'est à partir de là que tire l'accroissement de l'Église, tire la force de l'Église. Et chaque membre que nous sommes, que nous formons, chacun joue son rôle et ensuite nous pouvons effectivement nous édifier dans la charité, dans l'amour. La question qui est posée ce matin, c'est comment l'Église peut-elle rester connectée aujourd'hui? Nous voyons qu'à l'ère du numérique, de la technologie, à l'ère de la 5G qui est en train d'arriver et même qui est arrivée, à l'ère des réseaux sociaux, est-ce que réellement nous sommes connectés à Dieu? Est-ce que réellement nous sommes juste connectés avec des outils ou bien nous sommes réellement connectés à notre Seigneur? Est-ce que cela va nous amener à intensifier notre connexion avec Dieu ou cela va nous déconnecter de Dieu, de la réalité de l'Église? Et la deuxième question, c'est savoir les raisons pour lesquelles l'Église doit rester connectée. C'est sûr que Dieu veut que l'Église reste connectée avec lui, avec Jésus. Mais est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles Dieu veut que l'Église reste connectée? Que le Seigneur nous aide ce matin à tirer des enseignements par rapport à l'Église connectée pour que nous puissions réellement comprendre la façon dont Dieu veut que nous soyons connectés avec lui et aussi connecter les uns avec les autres. Comment l'Église peut-elle rester connectée aujourd'hui? La lettre s'adresse à une communauté dans laquelle certains chrétiens semblent abandonner leur assemblée. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, au verset 25, il est dit, comme certains ont eu l'habitude d'abandonner leur assemblée. Ça veut dire qu'il y a des raisons pourquoi ces personnes abandonnent l'assemblée. Et nous pouvons voir, effectivement, en cette période, il y a la persécution, mais aussi peut-être il y a des difficultés dans l'Église, peut-être il y a certaines inconvénances dans l'Église et ces personnes sont en train d'abandonner leur assemblée, soit pour aller dans le monde, soit aussi pour rejoindre d'autres assemblées ou soit même pour complètement abandonner la foi. Et le Seigneur veut ce matin nous interpeller que des difficultés peuvent venir, que des situations, des circonstances peuvent venir. Mais le Seigneur, ce qu'il dit, ce qu'il veut, c'est sa fidélité, comme Jérôme a poussé par le Saint-Esprit, nous a partagé de l'attribut de Dieu qui est la fidélité, qui est essentielle. La fidélité vient effectivement de notre foi. Si notre foi est là, ça veut dire qu'elle va nous pousser à garder cette connexion avec le Seigneur, avec l'Église et avec nos frères et sœurs. Luther exhorte donc de rester connecté à Christ et à l'Église locale selon l'enseignement du Christ. Aujourd'hui, la technologie, les réseaux sociaux et tout ce que nous sommes en train d'utiliser, il y a le bon côté. Le bon côté, c'est que nous pouvons véritablement utiliser pour à distance, pour se communiquer, pour s'encourager, pour se partager la bonne nouvelle. Comme aujourd'hui, nous pouvons voir depuis 5000 kilomètres, je vois mon frère Ghislain qui est connecté avec nous, qui participe, qui partage activement avec nous. Quelle grâce, quel bonheur de voir que ces outils peuvent être utilisés pour la gloire de Dieu. Mais en même temps, il y a l'autre côté. Est-ce que ces outils de connexion au niveau numérique technologique ne nous pousse pas de plus en plus à nous déconnecter les uns des autres? Est-ce que effectivement cela ne nous empêche pas d'être connectés avec notre Créateur, avec notre Dieu dans la prière et aussi dans le partage de la parole de Dieu? Plusieurs fois, Isabelle souvent m'a parlé de ça en me disant, quand je te parle, s'il te plaît, laisse ton téléphone, laisse ton ordinateur, laisse ta tablette. Effectivement, j'ai remarqué que souvent, de plus en plus, on est plus connecté avec ces outils et on n'entend plus notre frère ou notre sœur qui est à côté de nous qui parle. Que le Seigneur nous aide vraiment à rester connectés à Dieu et à utiliser ces outils vraiment dans le bon sens afin que cela puisse intensifier et nous donner cette possibilité de mieux communiquer avec nos frères et sœurs au sein de l'Église. Aujourd'hui, plusieurs raisons très pratiques poussent certains chrétiens à quitter ou à abandonner l'Église locale de leur ou les lieux de rassemblement. Plusieurs raisons pratiques, effectivement. Mais ces raisons pratiques ne doivent pas véritablement nous abandonner, nous pousser à abandonner nos lieux de culte et notre église locale. La technologie, les uns les autres peuvent participer à 3 cultes le dimanche. Il y a certains qui peuvent participer à des cultes aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada. Et donc, finalement, cela fait de telle sorte que les uns et les autres, ou bien des personnes, prouvent qu'ils ont la capacité plus de faire partie à plusieurs communautés. Et l'église locale, petit à petit, est en train d'être réduite à quelque chose qui n'est pas aujourd'hui pratique. Alors que ça, c'est une réalité qui n'est pas véritablement justifiée. Quelle que soit la possibilité pour nous aujourd'hui de vivre avec la technologie, ne devrait pas nous pousser à abandonner notre église locale. L'église locale est créée, instituée par Dieu pour plusieurs raisons. Et ces raisons, jusqu'à ce que Christ revienne, ces raisons resteront toujours valables et toujours quelque chose qui doit tenir. Comment l'Église primitive a pu rester connectée sans des cathédrales, sans toutes les technologies que nous avons aujourd'hui? Nous prenons l'exemple avec l'Église primitive parce que l'Église primitive est un exemple évident, un exemple concret par rapport à la connexion. Ils étaient connectés. L'Église primitive était véritablement connectée sans les cathédrales, sans les grands lieux de culte aujourd'hui que nous avons et sans même les téléphones, sans la technologie. Pourquoi ils ont pu être connectés avec Dieu et les uns avec les autres d'une manière intense, d'une manière efficace et pour la proclamation de l'Évangile? Simplement parce que chaque membre est conscient de participer à un corps vivant, uni dans l'amour. Le corps est un corps vivant et ce corps est uni non pas simplement parce qu'il y a des raisons matérielles, mais parce qu'il y a de l'amour, de l'affection les uns les autres, parce que nous partageons la même parole, nous partageons les mêmes valeurs et donc nous sommes unis à Christ parce que nous participons à quelque chose de commun. Éphésiens 4, versets 12 à 16 dit « C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. » Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Ce texte nous résume réellement que c'est l'intérêt c'est, que nous avons ensemble. C'est parce que nous formons un seul corps uni dans l'amour et nous servons le Seigneur avec amour les uns pour les autres. Chaque membre savait aussi impérativement qu'il y ait une nécessité de se rassembler et de se disperser. L'Église se rassemblait tous les jours, du lundi au dimanche, tous les jours ils se rassemblaient et leur activité principale, c'est la prière, c'est la fraction du pain, c'est la communion fraternelle et l'Église croissait. Mais en même temps, ils savaient que s'ils sont tous ensemble, c'est bien aussi de se disperser pour que l'Évangile puisse progresser parmi le peuple et parmi ceux qui doivent entendre l'Évangile. Donc, acte 2, 46, acte 8, 4 nous résume réellement ce rassemblement, la nécessité du rassemblement et la nécessité de la dispersion. Aujourd'hui, nous nous rassemblons en tant qu'Église dans un but vraiment de communier ensemble, dans un but de prier ensemble et dans un but aussi de partager la communion fraternelle afin, lorsque nous sommes dispersés, que nous puissions continuer à transmettre cet évangile et ce que nous avons reçu de Christ. L'Église primitive était aussi créative en utilisant les maisons, la plage, les temples, les synagogues pour se réunir. Pour l'Église, Paul, pour lui, il partait à la plage, il pouvait permettre que la plage soit une église. Immédiatement, plusieurs fois, il a réuni des personnes au niveau de la plage et immédiatement, ils ont improvisé une église sur la plage. Ensuite, il partait dans les temples. Et si aujourd'hui, je prends l'exemple, si aujourd'hui on nous disait, voilà, aujourd'hui notre culte sera dans la cathédrale de l'Église catholique, quelle sera votre réaction? Et Paul, pour lui, cela n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Le souci, ce n'est pas le lieu. Le souci, c'est le contenu. Est-ce que nous partageons le contenu ensemble d'une manière correspondant à ce que Dieu veut. La synagogue a été utilisée comme un lieu de rassemblement. Les temples ont été utilisés comme lieu de rassemblement. Les maisons ont été utilisées comme lieu de rassemblement. Et cela vient de la créativité. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être créatifs, à être une église créative. Et nous voyons nos frères et sœurs qui utilisent des cafés, des cinémas, des théâtres, des lieux où publics où pour se rassembler afin de pouvoir ensemble partager ces valeurs de l'Évangile que nous avons ensemble. À l'exemple de l'Église primitive, nous sommes appelés à être de plus en plus créatifs, de plus en plus rechercher des moyens pour se retrouver, des moyens pour se rassembler. Et ne pas rester au statu quo en disant, voilà, c'est, traditionnellement, c'est comme ça, nous restons dans ce cadre traditionnel. Le monde est en train d'évoluer, les pratiques sont en train d'évoluer, et nous aussi, nous sommes appelés à la créativité afin que notre message puisse continuer à être diffusé. À l'exemple de l'Église primitive, nous sommes appelés à vivre l'Église comme un corps vivant, pas juste des bâtiments, pas juste du matériel, mais juste un corps vivant qui vit, qui s'épanouit, qui grandit, qui se développe et qui est en train de s'épanouir pleinement. Les raisons pour lesquelles l'Église devrait rester connectée. Pourquoi nous devons rester connectés, être une Église connectée à notre temps, à notre époque, à notre contexte et surtout et rester connectés les uns avec les autres. C'est ce qui est le plus important. Parce que nous avons des raisons d'exister. Notre raison d'exister, c'est faire des disciples. Le Seigneur nous a laissé sa parole en Matthieu 28, 19, 20. Aller partout dans les nations, annoncer l'évangile et enseigner et faire des disciples, annoncer et enseigner-les à obéir tout ce que le Seigneur a enseigné et a recommandé. Nous avons aussi notre raison de se rassembler, notre rassemblement. Le but, c'est d'équiper le peuple de Dieu pour le service. Éphésiens 4 nous rappelle que nous nous rassemblons non pas pour discuter, non pas pour juste se voir en tant que des personnes de la même communauté, mais nous nous regroupons, nous nous rassemblons pour équiper le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse accomplir son service. Notre raison de se rassembler est aussi de vivre les dons et le fruit de l'Esprit. Romains 12, versets 3 à 8 nous rappelle que l'Église se rassemble pour vivre les dons que Dieu a déversés dans son Église afin que nous puissions efficacement être au service de notre Seigneur et aussi porter du fruit qui, jour après jour, pour la gloire de notre Seigneur. Notre raison d'exister aussi, c'est adorer le Seigneur. 1 Corinthiens 14, verset 26, nous rappelle aussi cette réalité de l'adoration. Et le Seigneur veut que son peuple puisse effectivement être un peuple qui l'adore en esprit et en vérité. Et cette raison de notre rassemblement est essentielle. Si nous nous rassemblons, c'est pour adorer notre Seigneur. Si nous nous rassemblons, c'est pour élever nos voix vers le Seigneur dans la prière, dans les chants, dans les cantiques et aussi dans la communion fraternelle. Notre raison de se rassembler, c'est participer financièrement à l'œuvre du Christ. Aussi, la participation financière aussi est une forme d'adoration. Philippiens 4, versets 14 à 16 nous dit que Paul nous dit dans ce passage qu'il se réjouit de ce que l'Église participe financièrement à ce que l'Évangile puisse être annoncé au-delà de l'environnement de l'Église. Que le Seigneur nous aide à avoir en face et avoir vraiment comme tableau de bord notre raison d'exister. Si nous oublions notre raison d'exister, cela veut dire que nous pouvons vivre juste comme un club d'amis, comme ou bien des personnes qui se connaissent depuis longtemps et finalement on reste ensemble un petit groupe et on essaie de rester, de garder ce lien que nous avons depuis des années. Alors que le but que le Seigneur nous donne, la mission que le Seigneur nous donne, c'est de faire des disciples, c'est d'équiper le peuple de Dieu, c'est de vivre les dons et les fruits de l'Esprit et aussi c'est d'adorer le Seigneur avec nos louanges, avec nos prières, avec la lecture de la parole de Dieu comme Jérôme nous a demandé tout à l'heure de lire, de dire simplement les promesses de Dieu pour nous et aussi de donner financièrement qui aussi est une forme d'adoration de notre Seigneur parce que nous donnons pour que le royaume de Dieu puisse continuer à avancer. Notre raison d'exister et de rassembler, c'est être en communion les uns avec les autres. Le verset 25 nous rappelle toujours que l'Église locale a pour but d'entretenir la communion fraternelle, d'entretenir la possibilité que les uns et les autres voient qu'ils sont entourés, qu'ils sont écoutés, qu'ils sont entendus et que leur foi s'épanouit. En conclusion, l'Église primitive était focalisée sur l'essentiel de sa mission, faire des disciples, adorer le Christ dans la communion les uns avec les autres. L'Église aussi avait une mission. Nous sommes appelés à ne pas oublier notre raison d'exister. Cette mission, cette raison d'exister aujourd'hui, nous ne devons pas l'oublier parce que nous avons tous les moyens nécessaires. Parce que Dieu nous a mis à la disposition tout ce qu'il faut pour annoncer l'Évangile, pour continuer à être une église qui est connectée à notre Seigneur et connectée les uns avec les autres. Nous sommes appelés à ne pas oublier notre raison d'exister aujourd'hui et à être créatifs en cette période pour rester connectés à notre Seigneur les uns avec les autres. J'aimerais terminer par un témoignage et en même temps une prière. En 2015, nous sommes partis en voyage dans un pays musulman pour visiter les églises là-bas, dans ce pays. Et j'étais étonné de la façon dont ils étaient connectés. Connectés avec Dieu et connectés les uns avec les autres. Là-bas, ils n'avaient pas le droit de se réunir. L'autorité les interdisait la réunion ensemble. Et donc, la réunion se faisait malgré tout dans une forêt, à une heure précise. Et j'étais étonné qu'au moment de l'heure où la réunion devait se faire, on voyait les uns et les autres sortir de la forêt, comme ça, venir se réunir, s'embrasser, être content de se retrouver, de partager la parole, de donner des témoignages. Voici comment j'ai vécu cette semaine. Voici comment j'ai témoigné à mes amis, à mes collègues dans la forêt, nulle part. Et ils étaient heureux et ils étaient conscients de servir le Seigneur et de vivre les dons et la grâce que le Seigneur a fait pour eux. Cela m'a beaucoup touché du fait que ces personnes qui sont des enfants du Christ, qui sont conscients que Dieu les avait donné une mission, et cette mission, c'est de faire des disciples et de vivre dans une vie d'adoration, même malgré les conditions qui n'étaient pas réunies, même sans le téléphone, sans la technologie, sans le Zoom aujourd'hui que nous avons, sans les murs, les cathédrales, et tout ce que nous avons aujourd'hui, ils sont parvenus à vivre une vie, une église connectée sans tout ce matériel, sans tous ces moyens. Aujourd'hui, nous avons tous ces moyens. N'oublions pas vraiment de continuer à vivre et comme une église connectée et aussi connectée avec Dieu et connectée les uns avec les autres. Notre église doit être une église connectée avec son Dieu et les uns avec les autres. Le matériel, les outils viennent juste faciliter la possibilité vraiment de renforcer notre connexion avec Dieu et de renforcer notre connexion les uns avec les autres. Prions. Seigneur, merci pour ton église. Merci pour ce rappel. Oui, non seulement tu nous rappelles que tu as créé ton Église pour un but. Dès la création de ton Église, tu as fondé ton Église pour qu'elle puisse être un moyen, oui, de communication, un moyen de relation, non seulement avec toi, avec le Père, avec le Saint-Esprit, mais aussi les uns avec les autres. De tes enfants, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cette connexion que tu as établie dès le commencement avec ton peuple. Et nous voulons, Seigneur, te demander, Seigneur, de nous garder connectés à toi. Que aujourd'hui, les outils que nous disposons soient des outils qui renforcent notre connexion avec toi, qui nous permet de vivre la communion fraternelle, qui nous permet d'adorer, qui nous permet de faire des disciples, qui nous permet d'équiper le peuple de Dieu afin qu'il puisse te servir efficacement partout où le peuple se trouve, que nous puissions, Seigneur, être, oui, tes adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Qu'au moment de nos rassemblements, Seigneur, nous sachions nous aimer, nous sachions réellement vivre cette réalité de la mission que tu as laissée à ton Église et non aller dans d'autres sens et dans d'autres buts qui n'est pas véritablement ce que l'appel que tu nous adresses. Seigneur, merci de permettre que ton Église, oui, avec tout le matériel que nous avons aujourd'hui, puisse servir, Seigneur, à renforcer notre connexion avec toi, à renforcer notre connexion les uns avec les autres. Et que cela ne soit pas des obstacles, des objets de dispute, des objets de, oui, éternel, de permettre que l'Église puisse se diviser parce que, à cause des outils que toi tu disposes simplement pour le bien du royaume et non pour la division et toute chose qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, merci parce que ton Église restera toujours debout et elle continuera d'avancer et de proclamer ton évangile, de propager la bonne nouvelle, Seigneur, à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, oui, tu nous appelles à faire des disciples. Nous te demandons, éternel, que partout où nous sommes, que cette réalité, cette faim et cette soif de faire des disciples occupe nos cœurs, occupe nos pensées, occupe, Seigneur, toute notre vie, Seigneur, afin que cela puisse être réellement la manifestation éternelle de la connexion que nous avons avec toi. Merci pour ton Église et merci pour la bénédiction que tu envoies, que tu déverses sur ton Église et de ce que ton Église va continuer à avancer, à faire des disciples et à propager la bonne nouvelle pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.